E-Radio présente
Europe in a Soundbite.
Europe in a Soundbite. L'Europe du laboratoire à la classe.
Bonjour à tous. Aujourd'hui dans Europe in a Soundbite, nous allons vous parler des États-Unis et du sport dans la guerre froide, des années 1940 aux années 1960.
Quel rôle joue le sport sur l'image des États-Unis pendant la guerre froide ?
Durant la guerre froide, les athlètes circulent dans le monde entier et projettent une image des États-Unis à la fois riche et construite. Cette image sert à contrer les efforts de l'Union soviétique pour affaiblir la nation américaine. Sur le terrain, les soviétiques se révèlent des adversaires redoutables et les victoires contre eux ne sont pas données d'avance. En dehors du terrain, les États-Unis sont convaincus que leurs athlètes sont meilleurs que ceux des soviétiques et qu'ils disposent d'une supériorité morale. Ils sont fortement influencés par le mouvement du christianisme musculaire, promu par la Young Men Christian Association depuis la Première Guerre mondiale. Ce mouvement affirme que l'activité physique est essentielle pour conduire la guerre et pour fortifier la nation américaine. Alors que la doctrine Truman prône l'endiguement du communisme après 1947, les athlètes jouent un rôle dans la défense de l'American Way of Life.
À quel moment et comment le sport devient-il un outil central de l'idéologie de la guerre froide aux États-Unis ?
Dans les années 1950, le sport est devenu un outil central de l'idéologie de la guerre froide aux États-Unis. Suite au rapport 68 du Conseil de sécurité nationale, dans un document politique secret qui appelait un renforcement militaire pour s'engager dans le renversement du communisme, le sport était considéré comme un puissant moyen de véhiculer la culture américaine à l'étranger. Le président républicain Eisenhower était déterminé à utiliser le facteur psychologique pour promouvoir la culture et le mode de vie américain. À cette fin, il créa en 1953 l'Agence d'information des États-Unis, USIA, qui organisa les tournées des diplomates en short. Les nations captives d'Europe centrale et orientale étaient une cible prioritaire pour les athlètes ambassadeurs les plus célèbres. Les États-Unis envoyaient souvent des athlètes noirs pour représenter leur nation, car les dirigeants politiques pensaient qu'ils mettaient en scène la modernité américaine et qu'ils contrasteraient avec les soviétiques. En effet, la confrontation idéologique a pour objectif de placer l'URSS entre le marteau et l'enclume. Par exemple, les Harlem Globetrotters tentent de conquérir le public soviétique à Moscou en 1959. Bâti autour de la star de l'université du Kansas, Wilt Chamberlain, ils deviennent le sujet de conversation de toute la ville. Le premier secrétaire du Parti communiste de l'URSS, Nikita Khrouchtchev, leur aurait rendu une brève visite sur la place rouge. La légende raconte que cette rencontre était inattendue et non planifiée. Mais le spectacle des Globetrotters a également eu un impact symbolique aux États-Unis. En effet, il s'inscrivait dans la tradition des minstrel shows et avait servi de support aux lois Jim Crow imposant la ségrégation raciale depuis la guerre de sécession. En d'autres termes, il a permis de mettre en avant les athlètes noirs. L'URSS attaque régulièrement les États-Unis sur la question de la ségrégation raciale. Le sport, ses valeurs, son accès ouvert sont présentés comme un ferment de la nation américaine.
Quel rôle social joue le sport durant cette période et quelles en sont les limites ?
Le sport joue un rôle social important, mais ne va pas jusqu'à remettre en cause le statu quo national marqué par la ségrégation raciale. Certains athlètes se sont engagés dans la lutte pour les droits civiques après que Truman eut ordonné la déségrégation des forces armées en 1948. En 1949, l'ancien athlète et acteur Paul Rubensen est accusé d'être un agitateur sponsorisé par les soviétiques. Il fait témoigner contre lui Jackie Robinson, le premier joueur à intégrer la Major League Baseball avec les Dodgers de Brooklyn, devant une commission du Sénat américain présidée par Joseph McCarthy. Cet épisode a alimenté l'offensive anticommuniste, antiradicale et antiprogressiste de la guerre froide et a aidé le mouvement des droits civiques à s'éloigner du radicalisme pour se tourner vers le réformisme. En outre, les mouvements de protestation nationaux ont eu un impact négatif sur l'image projetée à l'étranger. Les athlètes savaient que les performances sportives leur conféraient un pouvoir important, car la compétition sportive restait un espace où le mérite et l'égalitarisme devaient être au centre. Les points levés de Tommy Smith et de John Carlos pendant l'hymne national aux Jeux Olympiques de Mexico en 1968 ont été précédés de plusieurs incidents significatifs. À son retour des Jeux Olympiques de Rome en 1960, le boxeur Cassius Clay se voit refuser le service dans un restaurant. Personnage charismatique, télégénique et haut en couleur, Clay n'est pas seulement un champion olympique et un ami de Malcolm X. En 1964, il a également changé son nom en Mohamed Ali et a refusé la conscription dans les forces armées pour ne pas combattre au Vietnam en 1967. Le soutien qu'il reçoit de l'Olympic Project for Human Rights lui permet de bénéficier d'un forum international. Enfin, la couverture médiatique cristallise l'opinion publique américaine. Avec la décolonisation en cours, les États-Unis continuent de lutter pour leur influence, notamment sur le continent africain. Le joueur de basket, Lou Alcindor, s'engage dans un militantisme éclairé et fait une tournée en Afrique en 1970 sous les auspices du département d'État. Un agent culturel a fait part de sa surprise lorsqu'il a entendu Alcindor dire qu'il faisait une tournée en Afrique pour représenter son pays. L'agent a ajouté « il n'était pas assez précis et n'a pas dit de quel pays il parlait ». Pour les médias américains, Alcindor est presque coupable de trahison. En fin de compte, les États-Unis continuent de mener une guerre froide sportive pour contrer la menace qui pèse sur la stabilité intérieure. La finale de basketball masculin des Jeux Olympiques de Munich en 1972 est longtemps restée une blessure ouverte dans la mémoire collective américaine, car la défaite des États-Unis face à l'URSS a encore affaibli le contrôle national sur les mouvements contre-culturels ainsi que le prestige des États-Unis à l'étranger.
Aujourd'hui, Europe in a Soundbite sur les États-Unis et le sport dans la guerre froide des années 1940 aux années 1960 a été écrit par François Doppler-Speranza, traduit par Sylvain Dufraisse du programme Sport Nauka et interprété par Virginie Chaillou-Atrous. Retrouvez-nous sur www.libre-europe.eu. C'était Europe in a Soundbite.
That was Europe in a Soundbite.
À retrouver sur vos réseaux sociaux et sur euradio.fr.